Chers auditeurs, bonjour. Je suis Cyril Bock, maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès, rattaché à l'unité mixte de recherche, éducation, formation, travail, savoir, et vous écoutez Animation socioculturelle de l'éducation populaire au marché. Dans ce podcast, vous retrouverez une partie de mes travaux sur le monde de l'animation et en particulier sur le marché de la formation. J'essaye d'appréhender les transformations de l'éducation populaire vers un marché de l'animation. Dans ce dernier épisode de la saison, nous allons nous intéresser à la méthodologie du recueil empirique des données de ce travail. Premièrement, ce recueil est organisé en plusieurs périodes, c'est-à-dire un questionnaire et trois phases d'entretien, durant lesquelles les données structurent le cadre d'analyse. La problématique émerge principalement de la dimension empirique de la recherche. La méthode comparative générale participe au processus de théorisation et l'articulation d'une approche qualitative et d'une approche quantitative alimente la démarche. L'avancement de l'investigation empirique participe ainsi à la création et à la stabilisation de la problématique par une dynamique d'aller-retour, d'ajustement constant entre la formulation des hypothèses de recherche, l'élaboration de catégories conceptuelles, l'analyse et l'accumulation progressive des données issues du terrain. La démarche apporte des situations contrastées qui participent à la construction du cadre d'analyse. Le recueil de données est construit jusqu'à arriver à un point de saturation, en d'autres termes, jusqu'à identifier une redondance trop importante des données. Deuxièmement, la démarche analytique vise à porter un double regard sur un même objet, et ainsi croiser des données quantitatives, c'est-à-dire issues du questionnaire, avec des données qualitatives issues des entretiens. Cette partie a pour objectif de justifier la mobilisation d'une méthodologie mixte à partir d'une triangulation empirique, c'est-à-dire en multipliant les méthodes de recueil de données. L'approche quantitative est basée sur un questionnaire qui éclaire les données à l'échelle nationale par un croisement de matériaux recueillis par la Direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, la DJEPVA, et les Directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, la DRJSCS. Ce questionnaire complète l'approche qualitative par des entretiens qui donnent accès à l'expérience vécue des individus, tandis que les données statistiques fournissent une mesure chiffrée des faits sociaux. Les entretiens contribuent à la construction des données particulièrement structurantes dans les monographies. Ils constituent un moyen d'aborder une évolution des discours entre les acteurs les plus anciens dans le monde de l'animation et ceux qui l'intègrent. Dietrich et ses collègues soulignent en effet qu'utiliser de manière complémentaire les méthodes qualitatives et quantitatives se nourrissent l'une et l'autre et apportent une plus-value scientifique au travail de recherche. Les outils méthodologiques conduisent ainsi à une analyse où chacune répond à un questionnement précis sans qu'aucune d'elles ne soit subordonnée à la réalisation ou au résultat de l'autre. Par conséquent, ils sont complémentaires car ils permettent un usage plus compréhensif de la recherche que ne le font les travaux uniquement quantitatifs ou qualitatifs. En outre, pour Green et ses collègues, cette façon de travailler peut avoir cinq fonctions. En première intention, la triangulation vise à croiser les entretiens avec le questionnaire du fait de la structuration commune des deux approches. De plus, la démarche cartographique et le recueil systématique sont également mis en perspective avec les entretiens et le questionnaire. Par conséquent, la triangulation construit une hybridité dans l'analyse des données qui vise à apporter des résultats fidèles au cas étudié. La complémentarité constitue une inscription des données dans des résultats déjà établis dans le cadre d'autres recherches. Comme nous l'avons vu, de nombreuses recherches traitent de l'animation et ce travail vise à apporter une analyse socio-économique à travers le marché de la formation. Le développement, qui a une fonction proche de celle de complémentarité, présente l'avantage de faire communiquer les résultats afin d'articuler l'argumentation. La matière empirique est donc mise en discussion entre les différentes méthodes de recueil. Puis l'initiation a pour objectif de lever des paradoxes et des contradictions dans les résultats. Les différentes données recueillies ont ainsi été mises en discussion afin de les questionner entre elles. Enfin, l'expansion utilise des éléments de l'enquête pour les confronter à d'autres méthodes. À ce titre, les données ont été analysées une première fois à travers les monographies pour être réanalysées par le biais d'une comparaison entre elles. Pour finir, Dietrich et ses collègues soulignent que l'utilisation de cette démarche empirique est basée à la fois sur l'enquête par entretien, versant qualitatif, et l'enquête par questionnaire, versant quantitatif, devrait favoriser la compréhension de la complexité des phénomènes étudiés. Cette complémentarité est en effet nécessaire afin d'aborder la complexité émergente d'un marché de la formation dans le monde de l'animation. Le croisement de ces méthodes enrichit la démarche, car le travail qualitatif aide à comprendre ce qui se cache derrière les chiffres, tandis que la méthode quantitative éclaire les résultats obtenus grâce aux entretiens et aux observations. Troisièmement, le recueil de données vise à analyser la recomposition du marché de la formation d'animateurs et d'animatrices professionnelles de type initialement monopolistique, c'est-à-dire des fédérations d'éducation populaire, vers un type concurrentiel, multi-actoriel, avec du public, les universités, les GRETA, les CFA, le privé non marchand, les associations, et le privé marchand, les entreprises. L'organisation du marché témoigne de la professionnalisation de la formation d'animateurs et d'animatrices. Afin de questionner ce résultat, une méthodologie mixte a été mobilisée, à commencer par l'établissement d'un recueil systématique en exploitant les données mises à disposition par le ministère des Sports. À partir de ce recueil, une cartographie de l'offre de formation et des acteurs a été élaborée afin de les positionner, de visualiser leur représentation et de situer les formations à l'échelle nationale. L'outil cartographique a ainsi guidé le choix des villes qui ont fait l'objet des monographies, c'est-à-dire Paris, Grenoble et Toulouse. À partir de ces trois terrains d'expérimentation, des entretiens semi-directifs ont été menés et constituent la majeure partie du recueil monographique. Le recueil des coordonnées auprès des organismes de formation qui a permis de constituer la base de données pour l'envoi du questionnaire fut l'outil de collecte des données à l'échelle nationale. Les cartographies illustrent les zones où les acteurs aux statuts différents sont présents. L'approche qualitative par entretien semi-directif constitue le matériau principal des monographies. Par conséquent, cette partie illustre l'articulation entre ces deux outils. Tout d'abord, les monographies cherchent à interpréter le positionnement des acteurs qui est, en grande partie, produit par un territoire avec des caractéristiques originales qui ne sont pas encore connues. Elles sont considérées comme des cas, au sens de Becker, qui comprennent des éléments communs favorisant leur comparaison. À ce titre, la démarche cartographique a participé au choix des cas de l'enquête en illustrant l'offre et les acteurs sur différents territoires. L'objectif a été de mettre en perspective les différentes offres locales pour les comparer à travers trois territoires contrastés. Selon Robic, la monographie est une comparaison du point de vue du raisonnement scientifique. Il n'y a donc aucune différence de nature entre la monographie et la comparaison puisqu'il s'agit fondamentalement de comparer. La qualification des territoires vise à une montée en généralité en illustrant des phénomènes qui peuvent se formuler sans revenir sur le terrain. Lorsqu'il s'adressait à ses étudiants, le sociologue Howard Becker leur posait en effet la question suivante. En quoi votre travail peut-il être utile à un chercheur de l'Arizona, du Minnesota ou même d'Amérique du Sud? Ce faisant, il les incitait à concevoir l'intérêt de la thèse non pas par référence de la connaissance sur le terrain proprement dit, la vie dans les quartiers populaires de Chicago par exemple, mais par référence à des phénomènes qui peuvent se formuler sans se référer au terrain. Les modes de peuplement, les types d'habitat, les pratiques déviantes. Les monographies sont pertinentes pour analyser la structuration d'un marché à l'échelle locale sur des territoires contrastés. Par conséquent, les deux critères, une pluralité de l'offre, c'est-à-dire que l'offre est composée de plusieurs diplômes JEP et de diplômes universitaires, sur une pluralité d'acteurs, c'est-à-dire d'associations, d'entreprises, d'universités, ont conduit à choisir des marchés où les formations d'animateurs sont présentes avec des acteurs en concurrence. L'intérêt a donc été d'analyser les interactions entre les acteurs afin d'interroger le marché de façon plus globale avec la constitution de l'offre, de la demande et la régulation du marché. Les trajectoires des acteurs et des individus affinent d'ailleurs l'analyse. Quant au marché, l'analyse a été majoritairement construite à partir des acteurs qui exposent la demande à laquelle ils font face, l'offre qu'ils développent pour y répondre en lien ou non avec les autres offreurs et leur place en tant qu'individus dans l'organisme de formation. voici une brève présentation des trois villes retenues. Tout d'abord, à Paris, sont installés les sièges des fédérations d'éducation populaire historique qui ont participé à la création des formations d'animateurs et d'animatrices. Les universités sont particulièrement présentes sur ce marché. Elles proposent en effet des doubles diplômes avec des associations et des entreprises, c'est-à-dire licence ou master sciences de l'éducation et de la formation, couplées respectivement avec des DEGEPS ou DESGEPS. Les IUT sont également présents sur la région Île-de-France, mais seulement deux de ces établissements ont fait l'objet d'un recueil de données au sein des monographies. L'IUT de Sénart-Fontainebleau se situe géographiquement à l'extérieur du marché, contrairement à l'IUT de Bobigny, installée dans la première couronne. En outre, de nouveaux acteurs ont investi le marché à l'instar de Greta ou d'entreprises. Par conséquent, les nombreux acteurs rendent l'offre très dense sur le marché. Ensuite, Grenoble comporte une offre diverse, c'est-à-dire BPGEPS, DEGEPS, DUT, et des acteurs polyvalents, c'est-à-dire associations, IUT et entreprises. Enfin, Toulouse complète le panel en répondant aux critères de diversité d'acteurs et de formations. Par ailleurs, la ville se trouve suffisamment éloignée d'autres grandes métropoles pour structurer une activité propre. La proximité des villes du sud-est de la France étend le marché de Perpignan à Nice et constitue une offre atomisée. C'est par ailleurs le cas pour Rennes, Nantes, Angers ou encore Metz, Nancy et Strasbourg. D'autres villes, à l'instar de Bordeaux, sont écartées de l'étude par rapport au nombre restreint d'acteurs. Néanmoins, le recueil d'informations n'a pas été équivalent entre les trois terrains. Les données à caractère historique ne sont pas similaires et les préoccupations des acteurs sont différentes en fonction des territoires. À titre d'exemple, à Grenoble, les acteurs sont ancrés historiquement et les politiques locales favorisent la dynamique de coopération, alors qu'à Toulouse, de nombreux acteurs investissent le marché et la municipalité expérimente des centres de loisirs associés à l'école, les CLEI. À Paris, bien que les acteurs soient historiques, les protagonistes sont régulièrement amenés à changer d'organisme de formation, et le poids des politiques locales apparaît plus faible que sur les autres territoires. Par conséquent, le contexte historique se situe au niveau des structures elles-mêmes et leurs histoires sont atomisées. En outre, les périodes auxquelles les entretiens semi-directifs ont été réalisés sont différentes selon les trois marchés, c'est-à-dire entre septembre 2018 et janvier 2020. À cet égard, les entretiens avec les acteurs parisiens ont lieu en pleine annonce de la réforme de la formation professionnelle, c'est-à-dire entre septembre 2018 et février 2019. À Grenoble, aucune actualité n'a orienté la conduite des entretiens en avril 2019. Enfin, à Toulouse, les préoccupations des acteurs ont été guidées par les résultats des appels d'offres régionaux en juin-juillet 2019. Par conséquent, les terrains sont situés géographiquement, temporellement et historiquement. Le contexte d'enquête a des effets sur les informations recueillies. Malgré la grille d'entretien, les préoccupations des acteurs ont influencé la discussion et orienté le recueil. Par ailleurs, le contexte historique de l'émergence du marché est appréhendé dans les monographies. La démarche n'est cependant pas historique au niveau des marchés, c'est-à-dire il n'y a pas d'analyse d'archives. Mais elle vise à comprendre qui sont les acteurs de la formation, comment ils travaillent ensemble et comment se compose leur offre. Par conséquent, la recherche se situe durant la période contemporaine en sciences de l'éducation et de la formation, afin d'analyser le marché. Le contexte historique ne peut être ignoré, mais le cœur de l'analyse ne porte pas sur l'histoire du marché ou sur l'histoire des formations. Des traits historiques orientent toutefois la structuration du marché. Le contexte local est une dimension d'analyse influencée par l'angle historique et les trois cas ont une approche différente. Les trois territoires contrastés ont apporté des éléments de comparaison afin d'analyser des tendances plus générales au marché de la formation. La construction des monographies passe en grande partie par les entretiens semi-directifs avec les acteurs de la formation. Cette démarche est particulièrement présente dans le travail et les monographies sont basées sur cette approche. Par conséquent, cette partie aborde quatre axes. L'enquête par entretien, la posture dans la démarche d'entretien, la démarche d'analyse, l'anonymisation des entretiens. Premièrement, l'enquête par entretien semi-directif a été menée à l'échelle nationale avec des syndicats et des représentants de l'État, et sur trois territoires sélectionnés, Paris, Grenoble et Toulouse, avec les acteurs locaux, les associations, les entreprises, les universités. La densité du marché parisien a rendu complexe la rencontre avec tous les acteurs. Toutefois, dans un souci d'exhaustivité, les principaux organismes de formation sont identifiés à Paris intramuros et dans la petite couronne. Les offreurs ont été rencontrés à travers les protagonistes de la formation, entre 1 et 4 par structure. Après le recueil de données, les entretiens semi-directifs ont été retranscrits et préanalysés. Au préalable, le nombre d'entretiens n'a pas été défini, mais les acteurs ont été identifiés, à l'instar de Maëlle Loquet, qui a suivi le principe de saturation des données, une redondance des résultats dans les derniers entretiens. En effet, les données nouvelles n'apparaissent plus infléchir le cadre d'analyse progressivement élaboré. Le territoire parisien a été utilisé comme un échantillonnage théorique, au sens de Janine Bardot. Par conséquent, les entretiens et les situations contrastées ont favorisé la construction du cadre d'analyse. Concernant le territoire grenoblois, les entretiens ont été menés selon la même démarche, puis retranscrits et analysés. La construction entre les allées et les retours de démarches empiriques, d'analyse et d'enrichissement théorique a participé à la construction du cadre analytique. Le recueil auprès des acteurs de Toulouse s'est déroulé de la même manière. Enfin, les entretiens du niveau national concernent essentiellement les syndicats et l'État. Deux entretiens ont été réalisés avec des membres de la GEBVA, qui mettent en avant une approche davantage organisationnelle qu'opérationnelle, et 5 entretiens avec des représentants syndicaux, qui, pour certains, sont également CEPJ. Les sollicitations ont abouti, bien que le processus de mise en relation fût plus long que pour rencontrer certains organismes de formation. À titre d'exemple, pour les syndicats, de nombreux échanges téléphoniques et de mails ont abouti à la mise en relation avec un interlocuteur adéquat. Par ailleurs, comme pour le questionnaire, le biais de refus de réponse est à considérer. Certains acteurs n'ont pas souhaité participer à l'enquête, comme certaines entreprises émergentes du marché parisien qui proposent des diplômes en ligne. Également, le président de l'ARFA, directeur de transfert et ancien responsable des formations de l'INFA, n'a pas donné suite à nos nombreuses sollicitations. Les raisons peuvent être celles évoquées pour le refus de participation au questionnaire, selon Elsa Ramos. Au total, 57 entretiens semi-directifs ont été réalisés et répartis en 3 terrains contrastés et un terrain complémentaire, c'est-à-dire le niveau national, qui visait à approfondir les données. Une saturation empirique a ainsi été atteinte au sens d'Elsa Ramos. Cette analyse, en différentes phases, apporte en effet des éléments nouveaux, utiles pour la construction des monographies. Deuxièmement, la posture adoptée dans la réalisation des entretiens était de ne pas dévoiler totalement le sujet de la recherche, à savoir l'analyse du marché de la formation d'animateurs et d'animatrices. Le principe était de ne pas diriger directement et uniquement l'entretien sur cette perspective. L'axe de la formation professionnelle a ainsi été exposé, à l'instar de Janine Bardot lorsqu'elle réalise une étude avec les médecins. En parallèle des sollicitations, une grille d'entretien était établie comme étant un outil hybride et évolutif. Cette grille est basée sur les mêmes thématiques que celles du questionnaire, c'est-à-dire les diplômes, les débouchés et le fonctionnement, le public, l'inscription dans l'espace local, l'inscription dans l'espace national et une ouverture. Les questions étaient ouvertes et complétées par des questions de relance préparées dans la grille d'entretien. Et dans un souci de démarche qualitative, le mode d'investigation de type question-réponse est proscrit. La démarche a été construite avec un système de questionnement par déclinaison, en commençant par « est-ce que », puis « comment » et enfin « pourquoi ». L'interlocuteur est davantage en confiance grâce à cette technique dite de l'entonnoir. Bien qu'Howard Becker soutienne l'importance du comment par rapport au pourquoi, qu'il estime comme poussant à la justification de l'interlocuteur, cette relance vise à affiner les réponses. En espérant que ces éléments méthodologiques pourront vous resservir. Merci de m'avoir écouté et d'avoir suivi cette première saison. Nous nous retrouvons en septembre avec de nouveaux épisodes. J'en profite pour remercier l'équipe du pôle production de la Maison de l'Image et du Numérique qui m'a accompagné depuis la conception jusqu'à la diffusion de ce podcast. On se dit à la rentrée pour explorer le marché de la formation d'animateurs et d'animatrices.